Bien, on va commencer. Bonsoir à tous. Je vais d'abord commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Monsieur le Diagon m'avait introduit il y a un an de ça. Donc, je suis Louis Thibault Lefort. Je suis ancien élève de l'établissement Promo 2001. Et aujourd'hui, je suis Plume. J'écris pour divers publics et diverses sociétés. Et l'institution m'a retrouvé et m'a demandé de venir prêter main forte pour la rédaction de notre vieux collège. Donc, j'ai le plaisir d'aider M. Gilles Corbeau, ici présent, sur cette magnifique tâche. Et M. Le Diagon m'a également demandé de m'occuper du cycle de conférences, que j'ai accepté avec grand plaisir. Donc, je m'occupe avec M. Le Diagon de trouver des intervenants et des intervenantes de qualité pour venir vous enseigner et nous enseigner. Alors, je vais dire un rapide mot sur Madame Marie-Christine Bernard, qui est à côté de moi, que je laisserai se présenter parce qu'elle le fera bien mieux que moi, mais je voudrais simplement dire que quand on a entendu parler de Madame Bernard, on a entendu parler d'abord de la personne, mais aussi du thème de la conférence. Et là, on a lu « Non, l'adolescence n'est pas un problème » et on s'est dit « Il faut absolument qu'on la fasse venir » parce qu'on a certainement des trucs à apprendre. Moi, en ce qui me concerne, ça commence à toquer à la porte très sérieusement à la maison, donc je suis très content de pouvoir récupérer des enseignements ce soir. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne conférence. Je suis certain qu'elle sera pleine de bon sens et de petits tips à adopter au quotidien. Simplement, la conférence, donc Madame Bernard parlera à peu près 50 minutes, ce qui est un peu plus court que d'habitude, pour vous laisser l'occasion et la possibilité de poser des questions. Voilà, donc surtout, vous n'hésitez pas quand la partie plénière, on va dire, sera terminée. Le micro vous sera mis à disposition et on compte sur vous pour y aller avec des questions. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je laisse la parole à Marie-Christine Bernard.
Merci et bonsoir à tous. Alors je mesure la chance que j'ai de vous avoir en face de moi là, parce qu'il y a une journée de travail derrière, il y a eu les enfants qui sont rentrés de l'école et les devoirs et les pyjamas et tout ça, et le froid dehors et la nuit, et pourtant vous êtes ressortis de chez vous et vous êtes là. Rien que pour ça, je vous aime. Bravo et merci d'être là. Alors, je mesure vraiment l'effort que ça représente. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis toujours contente de venir sur Lille et la région parce que j'aime trop cette région. Je vous trouve formidable, bien que bourguignonne d'origine et bien qu'habitant Le Mans maintenant, donc vraiment rien à voir. C'est toujours avec bonheur que je viens ici. Je suis donc Marie-Christine Bernard. Là-bas, je suis donc théologienne, mais ce n'est pas à ce titre-là que je vais intervenir ce soir. Je suis en même temps spécialisée en anthropologie, mais ici au sens de ce qui relève du spécifique humain. Parce qu'aujourd'hui, anthropologie, c'est le mot un peu valise qu'on plaque sur tout ce qui relève des disciplines humaines. Je fais une grande différence entre l'anthropologie et la sociologie, par exemple, entre l'anthropologie et la philosophie, ce n'est pas la même chose. Donc je pourrais m'en expliquer si ça vous intéresse. En tout cas, entendez dans un premier temps que l'anthropologie, en ce qui me concerne, relève de ce qui relève du spécifique humain. Nous sommes une espèce animale spécifique. Je vais y revenir, parenthèse, ça ne nous donne aucun droit d'exploitation et de maltraitance du reste de la création, en particulier des animaux. On est d'accord. On est juste, on ne fonctionne pas pareil, ça ne nous donne pas l'autorisation de malmener les animaux. Hein. Attention, soyons clairs. J'aime beaucoup les animaux, ils ont des tas de choses à nous apprendre, donc on ne touche pas aux animaux. Mais en attendant, ben, nous, en tant qu'humains, on ne fonctionne pas de la même façon, il faut quand même qu'on le sache et qu'on apprenne un peu, ou qu'on réapprenne quelques fondamentaux de ce point de vue-là, et je vais donc m'en expliquer avec vous ce soir sur cette question de l'adolescence. Alors, pour terminer de me présenter, moi, je travaille en libéral, ce qui me donne une très grande liberté de parole sur le terrain de la foi, et c'est pas rien, comme sur le reste, et je travaille, donc je fais des conférences, je fais des formations, je fais du coaching de chefs d'entreprise, j'écris des bouquins, je vous en ai apporté un qui concerne notre thème, et je monte sur scène aussi pour défendre un one-woman show que j'ai créé et qui s'appelle « Et si Dieu était laïque ?» Point d'interrogation, point d'exclamation. Voilà pour me présenter, je pense que ça suffira. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ce n'est pas inconfortable? C'est bon? Voilà, ça me paraît un peu aigu, mais bon. Alors non, l'adolescence n'est pas un problème. Sauf évidemment ceux qui vivent de l'affirmation contraire. Et il y en a beaucoup. D'où me vient ce que je vais vous dire aujourd'hui? C'est tout simplement ce qui relève de ce que j'appelle des invariants. Je ne suis pas la seule à le dire. Je travaille avec, j'ai travaillé un moment avec des chercheurs sur Rennes en particulier, qui travaillent aussi à partir de la clinique, qui travaillent surtout à partir de la clinique. Et on se rend compte, à travers la clinique, de la manière dont l'être humain fonctionne. Et même si on peut faire des liens avec les neurosciences, évidemment, puisque les neurosciences ne vont faire que nous montrer au fond ce qu'on sait déjà, ce qui est déjà le cas, pour autant, l'idée, c'est de repérer des invariants. Il y a des invariants. Alors, en tant que parent, vous êtes sans doute beaucoup ici à être parent, sinon la totalité. C'est un métier hyper compliqué. Mais en tant que parent, vous êtes parfaitement capable de savoir ce qu'il faut faire pour bien faire. Donc ça, déjà, je voudrais vous redire ça. Le parent, il naît et n'a été en même temps que l'enfant. Il n'y a pas de parent sans enfant. C'est grâce à l'enfant que vous êtes parent. Et le parent, il n'existe pas en dehors de la relation de l'enfant. Et l'enfant n'existe pas en dehors de la relation du parent, des parents ou de ceux qui en tiennent lieu. Donc il y a là, d'emblée, une relation avec entre deux personnes, et c'est l'un qui fait l'autre. On n'est pas parent en soi, on n'est pas enfant en soi. On est l'enfant de, et on est parent de. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre de choses que vous savez, que vous ne saviez pas que vous savez, mais que vous savez faire. Alors, je voudrais vous rassurer d'emblée sur ce plan-là. Un, il n'y a pas de parent parfait. Si vous vous sentez dépassé, si vous ne savez plus où vous en êtes, si vous avez l'impression qu'il y a des choses contradictoires qui se circulent dans la société, vous ne savez plus à quel sein vous vouer, c'est que vous êtes des personnes normales. Voilà. Donc il n'y a pas de parents parfaits, ça n'existe pas, parce que la vie relève d'autre chose que de la perfection. C'est quelque chose du foisonnement, c'est quelque chose où il y a des mouvements de vie et du mouvement de mort qui traversent, et cette dialectique-là, elle est constante. Donc si vous êtes au rendez-vous avec la vie, alors vous êtes dépassé. C'est normal. Pas de perfection. Deuxièmement, c'est des petits rappels que je vous fais d'emblée. Vous êtes légitime. C'est-à-dire que c'est bien, c'est ça ce que ça veut dire, légitime, c'est que c'est bien du point de vue moral, que vous ayez un rapport avec vos enfants qui relève d'un rapport dissymétrique. On n'est pas à égalité avec des enfants. Il y a les parents qui conduisent les enfants. Et ce n'est pas les enfants qui conduisent les parents. Ou alors, c'est qu'on est en train de s'égarer. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, les égarements. Mais c'est les parents qui conduisent les enfants. Pourquoi ? Vous l'aurez remarqué, quand un bébé arrive au monde, quand il naît et n'a été, il ne peut pas se prendre en charge tout seul. Il ne peut pas. Il faut que quelqu'un vienne s'en occuper. Normalement, c'est les parents biologiques. Dans notre société, de façon prioritaire, ce sont les parents biologiques. Mais ce n'est pas la biologie qui fait le parent. Ce n'est pas la biologie qui fait le parent chez les humains. Ce qui fait le parent chez les humains, c'est la relation qui prend en charge l'enfant. Normalement, le parent biologique, mais parfois ce sont les parents adoptifs, et parfois ce sont des parents de substitution. Donc, peu importe, d'une certaine manière, ce qui est sûr, c'est qu'un enfant a besoin qu'on le prenne en charge. Sinon, il ne peut pas survivre. Évidemment, on raconte quelques histoires d'enfants élevés par les louves dans la forêt, mais ça reste exceptionnel. Vous l'aurez compris. Cet enfant qui a besoin qu'on le prenne en charge, il va petit à petit grandir et trouver son autonomie. Par extension, tous les métiers qui prennent en charge les jeunes, les enfants et les jeunes, sont comme des extensions via les métiers du métier de parent. La matrice, c'est le métier de parent. Ensuite, il y a des profs, il y a des enseignants, il y a des animateurs de clubs sportifs, il y a des animateurs de théâtre, il y a des parrains, des marraines, il y a des grands-parents, il y a des gens qui, par extension, vont aussi prendre leur part dans la prise en charge de l'enfant. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les métiers éducatifs, par exemple, quand je parle de parentalité, par extension, les métiers éducatifs en font partie. Voilà. Alors ça, c'était pour vous dire tout de suite que donc un parent et n'est pas au même niveau qu'un enfant. Donc c'est normal que les parents conduisent les enfants. Je vous rappelle que le mot éducation, éducation, alors on est très content, il y a des étymologies là-dedans, on conduit, hein, doucher, éduquer, on est ex à en dehors de, mais en dehors de quoi? On est éduqué, conduire en dehors de, qu'est-ce que ça veut dire, éduquer? Mais ça veut dire conduire en dehors de l'enfance. Éduquer. On accompagne, pédagogie, on marche avec l'enfant pour que peu à peu il sorte de l'enfance, c'est-à-dire de cet état de dépendance absolue, pour verser dans le monde adulte où il va pouvoir vivre sa vie en son nom propre. C'est ça l'idée de base de toute éducation. On apprend petit à petit, on accompagne l'enfant pour qu'il sorte de l'enfance et entre dans la vie d'adulte où il va pouvoir vivre en son nom propre. Tant qu'il est enfant, il vit par adulte, par procuration, je veux dire. Voilà. C'est les adultes qui parlent en son nom, qui décident à sa place, etc. Et c'est normal. Un enfant ne peut pas décider. Il n'a pas la structure intérieure pour décider en son nom propre. Il décide, un enfant à qui on demande de décider, il décide toujours en fonction de ce qu'il pense que ses parents attendent de lui, que ce soit des parents biologiques ou les parents qui s'occupent de lui. Toujours. Il essaie de faire plaisir. Il ne veut pas rompre la relation avec ceux qui s'occupent de lui. L'enfant, il est dans sa bulle. Il a besoin d'une bulle protectrice. Voilà. Et ça, c'est l'enfant. C'est important de connaître, de savoir que le statut d'enfant va éclater au moment de la puberté. C'est pour ça que j'arrive sur mon terrain. L'adolescence n'est pas un problème. Mais pour comprendre ce qui se passe après la puberté, il faut comprendre ce qui se passe avant. Avant, on a affaire à un enfant qui vit par procuration. Il n'est pas autonome. Il ne se donne pas à lui-même sa loi. C'est les parents qui lui donnent la loi. On lui donne l'avis, déjà. On ne lui a pas demandé son avis, vous l'avez remarqué. Bon, on lui donne sa langue maternelle, sans lui avoir demandé de choisir. On lui donne ce qu'on a de meilleur, bien sûr, un toit, des rites familiaux, éventuellement une croyance, parce qu'on pense qu'elle est bonne pour nous, donc on la transmet aux enfants. L'école, on accompagne les devoirs, parce qu'on pense que c'est bien qu'il apprenne à lire, à écrire, etc. Tout ce qui est bien, tout ce qu'on a l'impression que c'est bien pour lui, y compris les vaccins, on fait pour l'enfant. On n'attend pas que l'enfant, du haut de ses 3 ans et demi, vous dise « Ah, maman, je ferais bien un vaccin contre la variole maintenant ». Vous voyez, non, ça, c'est pas possible, ça. C'est les parents qui décident. Et c'est normal. Et c'est normal. Vous n'êtes pas des tyrans. Vous êtes des parents normaux. Voilà. Donc, jusqu'à la puberté. Alors, c'est là que... Je vais vite. Hein. À partir de la puberté, il va se passer quelque chose. L'enfant, jusqu'à là, était dans sa bulle. Et la bulle, c'est les gens qui s'occupent de moi, par extension, donc il y a les parents évidemment qui s'occupent de moi, puis par extension, il y a la maîtresse, il y a le maître, il y a les profs, enfin, plutôt les professeurs des écoles, on dit aujourd'hui, hélas, mais bon, l'idée c'est celle-là. Vous aurez remarqué quand l'enfant rentre à la maison le soir et que tout d'un coup il a entendu à l'école quelque chose qui ne dit pas la même chose que les parents sur un sujet ou sur un autre. La maîtresse, elle m'a dit, elle a dit que, puis c'est pas du tout ce que pensent les parents. Alors là, ça le trouble énormément, le gamin. Il lui faut une explication. Hein ? Alors, qu'est-ce qui le trouble ? Ce n'est pas le sujet. Parce que là, c'était 8 ans, 9 ans. Bon. Mais c'est comment je vais m'y retrouver dans ma serre, là, dans ma bulle protectrice, si tout d'un coup, ça se déchire ? Alors, évidemment, on va l'aider, on va lui apprendre à tenir 2 propositions pas forcément compatibles entre elles. Et ce n'est pas la fin du monde. Bah, tu vois, la maîtresse, elle t'a dit ça parce que elle doit penser ça et ça, mais peut-être qu'elle ne sait pas que. Alors, du coup, les parents, tu vois, c'est... ce qu'elle entend, l'enfant, c'est qu'il y a de la cohérence. Ah, bah, il est rassuré, il y a de la cohérence. Mais par contre, si tout d'un coup, parents et enseignants, on est dans la confrontation et dans un rapport ennemi, alors là, l'enfant, il est paumé. Il ne sait plus à quel sens vouer. Donc, ce n'est pas grave de ne pas dire la même chose. Il faut que l'enfant entende qu'il y a, malgré ça, il y a une cohérence qui est assurée. Bon, il est content avec ça, l'enfant. À partir de la puberté, tout commence. Tout commence. Alors, la puberté, ce n'est pas compliqué. Il y a un repère physiologique. Quand je dis que ce n'est pas compliqué, c'est-à-dire que ne comptez pas sur moi pour parler de l'adultescence et l'adolescence qu'on finit pas. Ben, vous savez, un tel à 42 ans, c'est un grand adolescent, et gna 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 gna. Non, non, non. Là, je vous supplie d'arrêter ça. Il y a un moment, il faut être clair. L'adolescence a un signe physiologique. Je ne dis pas que ça suffit pour faire un adulte. Mais les premières règles chez les filles, la première éjaculation chez les garçons, c'est le signe qu'on n'est plus un môme. On ne va plus jouer au docteur comme on jouait au docteur à 8 ans. Voilà. À 8 ans, on est intéressé, on est curieux, on voudrait savoir comment ça... Comment c'est bizarre, hein, c'est pas pareil en face. À 13 ans, 14 ans, c'est plus du tout ça. Tout d'un coup, le monde, comme dit le titre du film, et Dieu créa la femme. On pourrait retourner la proposition pour le regard de la femme, c'est Dieu crée l'homme. C'est-à-dire, tout d'un coup, le petit copain ou la copine, c'est plus le camarade ou la camarade, c'est l'autre. C'est l'autre. Et c'est fascinant. On s'ouvre à ce moment-là à l'altérité. Alors, c'est la première fois de la vie d'une personne que tout d'un coup, l'autre, c'est l'autre. Alors c'est fascinant, c'est attirant, ça fait peur, ça, bon, ok. C'est que la première fois d'une longue série de premières fois, jusqu'à notre mort, on va vivre une succession de premières fois. La dernière première fois qu'on vivra, c'est la première fois qu'on meurt. La seule différence entre un adulte aguerri et un jeune de 12, 13, 14 ans qui vient tout juste d'être pubère, 12 ans, c'est que lui, c'est pratiquement toujours, tout, très vite, la première fois. Première fois qu'il éprouve des sentiments qu'il dépasse. Première fois qu'il a peur de la copine, que jusqu'à-là, on jouait dans la cour sans trop se poser de questions, puis là, tout d'un coup, je suis gênée, je ne sais pas trop. Bon. Voilà. Première fois que. Alors, évidemment, ça demande d'être accompagné. Donc, puberté, on passe dans un autre monde. Vous n'avez, alors, pour les parents comme vous, c'est terrifiant. Enfin, c'est terrifiant, c'est passionnant. Mais quand même, il faut que vous... Enfin, prenez des vitamines. Hein. Parce que vous faites plusieurs métiers, en fait. Vous avez à vous occuper des enfants prépubères, puis après, c'est un autre métier. Quand ils passent à puberté, c'est un autre métier. Vous avez à vous situer différemment, je vais y revenir. Et puis après, il va avoir la majorité légale, 18 ans, mais c'est encore un grand jeune, il est encore en train de faire des études supérieures, il est encore en train de squatter chez vous, il ramène sa lessive le week-end. Ah, c'est encore un autre métier. Vous êtes toujours les mêmes parents, vous avez une fratrie, il y a trois métiers. Quoi. Oui. Donc, on y croit, hein, ça se passe bien. Hein. Bon, enfin, quand même. Revenons à l'adolescence. Pourquoi je dis que ce n'est pas un problème? Figurez-vous qu'anthropologiquement parlant, au sens vraiment basique du terme, l'adolescence, ça n'existe pas. Ce n'est pas un statut qu'on peut repérer dans une personne humaine. On peut repérer l'enfant, il est incapable de se reproduire. On repère l'adulte qui est capable de se reproduire. Point barre. Entre les deux, il n'y a pas. Alors, si, il n'y a pas. Il va y avoir des traitements sociaux du fait que, quand on passe à puberté, le minimum qu'on puisse en dire, c'est qu'on manque d'expérience et de maturité. On est d'accord. Donc on est des petits jeunes, des petits bleus. Voilà. Mais c'est tout. Petite parenthèse, on va rester longtemps des petits jeunes ou des petits bleus au fil de nos expériences de vie et d'expériences professionnelles. Même à 40 ans, supposez que vous ayez à changer de travail, si tant est que ça ne vous est pas déjà arrivé. Vous changez d'entreprise, vous changez de statut, vous changez de boulot. C'est la première fois que vous êtes là, dans cette situation, à devoir faire tel type de boulot. Eh bien, vous êtes exactement dans la même situation qu'à 13 ans, quand on découvre que tout d'un coup, on va faire un stage je ne sais pas où et qu'on ne sait pas quoi faire de sa personne. Et qu'on ne sait pas comment fonctionne la photocopieuse et qu'on n'ose pas parler à la personne qui pourrait nous aider parce qu'on n'ose pas passer pour un ignare, etc. Donc, les premières expériences, on les fait à 13-14 ans, mais on continue toute sa vie à avoir quelque chose d'équivalent. Bon, on apprend simplement à les vivre sur le mode non dramatique. Ça, c'est vrai. On relativise. Voilà. Mais au début, on ne sait pas faire. On ne sait pas parce que c'est la première fois, on se prend un râteau à 14 ans, on se le prend voilà, la tronche. Quoi. Bon. Après, on apprend à temporiser. Bon. Mais des déceptions amoureuses, il arrive qu'on en ait quelques-unes dans la vie quand même. C'est pas la dernière. Donc, anthropologiquement parlant, on a un statut d'enfant qui a besoin des parents, qui dépend des parents, qui n'est pas autonome, j'insiste. Et après, on bascule dans autre chose. Traditionnellement, dans l'ensemble des civilisations, des sociétés, on avait un rituel de passage, un rituel initiatique, qui permettait de situer cette personne parmi le groupe des adultes. Il y avait un rituel de passage, il y a des rituels de passage. Alors bon, ça passe par, je sais pas, on va lâcher les mômes dans les forêts pendant une semaine, et puis ceux qui reviennent, il y en a parfois qui ne reviennent pas, et ben voilà, ils ont, là, on fait des scarifications, des trucs, enfin bon, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je dis simplement que dans notre société occidentale, depuis le milieu du XXe siècle, en gros, on ne sait absolument pas faire le passage. On n'a pas de rite initiatique. On continue mentalement de se représenter les post-pubères comme des continuums de l'enfant. Voilà. Et d'ailleurs, sauf ici, où on fait plein de choses super intéressantes, mais globalement, dans les écoles, il y a un continuum, hein. Quelle différence entre une classe de CM2, une classe de 6e, sinon qu'on change de prof plus souvent, enfin, mais autrement, qu'est-ce qu'on demande aux enfants? De rester là, d'écouter, de prendre des notes et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il n'y a pas de différence? Dans les fratries à l'intérieur des familles, on a du mal à faire des différences. Alors évidemment, imaginez-vous qui êtes des adultes, enfin, au premier regard, je dirais que vous êtes des adultes, imaginez qu'on vous traite comme des mômes. Comment vous réagissez-vous dans votre milieu de boulot? Comment vous faites? Eh bien, vous ruez dans les brancards en disant je suis pauvre CP. Voilà. Eh bien, à 14 ans, c'est pareil. Quand on sent que les parents n'ont toujours pas changé leur regard et continuent de me traiter comme si j'avais 7 ans et demi, eh bien, je claque les portes. Mais le problème, ce n'est pas la porte, ça on l'a compris, mais ce n'est pas l'adolescence. Le problème, c'est que le rapport qu'on a avec ceux qui nous éduquent n'est pas en place. Alors, on proteste. C'est normal. Donc, depuis le milieu du XXe siècle, on a inventé cette catégorie de jeunes qu'on appelle les ados. Et comme c'est un marché commercialement très juteux, évidemment qu'on s'est engouffré. Il y a des spécialistes d'ados, il y a des maisons d'ados, il y a des productions biblio d'ados et de machin. Bon, il y a même des littératures maintenant, de la littérature pour ados, etc. etc. Puis comme on ne sait pas quand ça s'arrête, ça peut durer un moment. Et tout ça est très confus. Tout ça est très confus. Et vous aurez remarqué, si vous avez des enfants, des jeunes chez vous, que les jeunes, quand ils passent la puberté, vous allez repérer ça à un moment, ils vont vous proposer leurs services sans rémunération en face. Genre, vous voyez, vous faites les courses, tout ça, ils arrivent, ils vous voient un peu avec des cabas, des choses, et vous avez votre jeune qui vous dit bah, tiens, si tu veux, mens ou pas, bah, si tu veux, je t'aide. Alors, vous tombez des nues, parce que jusque-là, bon, il fallait bouger, ça. Bon, évidemment, c'est pas le moment de leur dire non, tu vas pas savoir ranger. Il faut surtout leur dire ah ben oui, j'attendais que ça. Ah ben heureusement que t'es là. Pourquoi? Parce que quand on passe la puberté, alors qu'on n'est plus. Alors, l'enfant de 3-4 ans, il est dans l'imitation. Alors, lui, il veut faire la vaisselle, il veut balayer, il veut faire comme maman, comme papa, pareil, papa qui passe l'aspirateur, moi je passe l'aspirateur et tout ça. Bon, ok. Après, il y a un moment où, non, hein, c'est corvée, hein, on n'a pas envie. Hein. À 8 ans, 9 ans, ou alors argent de poche derrière ou quoi. Hein. Bon. Mais il y a un moment où ça change. Il y a un moment où on a besoin de sentir qu'on compte pour les autres, qu'on peut apporter notre plus-value, on peut apporter notre contribution à la vie. Voilà, c'est juste ça qui commence à naître après la puberté, vraiment. Je compte, moi, j'apporte quelque chose. Je peux faire, moi, quelque chose. Alors, on appelle ça prendre ses responsabilités. Et ça, c'est très important de ne pas rater le coche. Quand les jeunes commencent à se proposer pour faire des choses, tout de suite dire oui. Après seulement, on dira, bon, attention quand même. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience, donc évidemment, ils font ce billet en tête, etc. Donc, on leur dit, voilà. Mais dans un établissement comme celui-ci, j'imagine qu'il y a plein d'initiatives comme ça qui viennent des jeunes. On ferait bien une pièce de théâtre, on va faire un festival, on va faire ceci, cela. J'imagine qu'on les encourage. Mais alors, en disant, attention, festival, oui, mais enfin, il faut prévenir la préfecture, il faut faire attention, il y a des règlements, etc. On peut faire n'importe quoi. Mais ce qu'ils entendent, les jeunes, c'est d'abord, oui, ok, et on vous accompagne. Et là, on a la deuxième dimension de l'accompagnement par les parents et par extension par tous ceux qui s'occupent des jeunes. C'est la dimension éducative qui devient cette fois-ci non pas une sorte de comment on va prendre soin comme on prend soin à l'intérieur d'une serre, d'un certain nombre de plantes. Voilà. Non, là, après la puberté, on va planter l'arbre en pleine terre, mais avec un tuteur. Vous voyez, on ne peut pas laisser d'emblée un petit jeune arbuste comme ça en plein vent. Il va y avoir le tuteur. Et c'est là que les parents, vous allez changer de boulot. Parce que vous allez devenir un référent, bien sûr, éducatif, au sens de vous allez lui proposer ce qu'on appelle un tuteur. Ce n'est pas ce mot-là qu'il faut utiliser. Mais en gros, c'est quoi? C'est un cadre. C'est du cadre. Voilà. Mais il ne faut pas un cadre qui n'empêche pas de grandir. Au contraire. C'est attention. Il s'agit de proposer un cadre qui sécurise un minimum, qui compense en partie le manque d'expérience des jeunes. Normal, à 15 ans, à 16 ans, on n'a pas l'expérience, on n'a pas le recul. Donc c'est bien que les adultes autour disent « Attends, bon, voilà, jusqu'à telle heure, enfin, vous comprenez ça mieux que moi. » Un tuteur, c'est l'idée. Alors après, tout va se jouer dans le doigté. Hein, le tuteur, il faut qu'il soit suffisamment solide pour que, quand il y a des bourrasques, l'arbre ne casse pas, mais suffisamment lâche pour ne pas empêcher l'arbre de grossir et de grandir. Et puis, il y a un moment, le tuteur, il n'est plus utile. Pouf, voilà, vous avez affaire à des jeunes adultes. Très bien, ils se débrouillent. Alors oui, il y aura des tempêtes, oui, il y aura des branches cassées, oui, mais ça, c'est la vie. Voilà, ça vous avez fait votre boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je reviens sur le rôle des parents, depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Vous êtes parents toute la vie, ça c'est clair, mais pas les mêmes. Les parents au départ, qu'est-ce qu'on fait? On va élever les enfants. Alors moi, je sors les gros mots, hein, vous avez remarqué, élever. Oh, un jour, j'ai dit, il faudrait élever les enfants. Il faut élever les enfants, on me dit, ouais, c'est pas des veaux en batterie. Ben, mais qui vous parle d'élevage? Moi, je parle pas d'élevage. Je parle d'élévation. Ça n'a rien à voir. Il s'agit d'élever les enfants au sens de les élever vers quelque chose qui leur permette d'accéder à eux-mêmes, à leur identité profonde. Et le soin qu'on apporte à leur santé physique, qui est bien, c'est normal, c'est bien le minimum, devrait être de la même, devrait donner la couleur et le niveau d'exigence de ce qu'on va prendre en compte pour leur élévation intérieure. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Un bébé, un enfant, et c'est ça le genre humain, l'espèce humaine, elle ne peut pas se contenter d'avoir un manger, d'avoir un toit sur la tête. Nous, les humains, on ne peut pas s'en contenter. C'est comme ça. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une philosophie, c'est une réalité. On a besoin d'autre chose. On a besoin de sens. Voilà. On a besoin d'amour, mais pas de l'amour physique. On a besoin de l'amour tout court. Et on sait que même les bébés, les petits bébés, on le sait malheureusement dans des scènes tragiques, hein, quand il y a eu des guerres ou des catastrophes naturelles, on se rend compte qu'il y a des bébés qui se laissent mourir parce qu'ils ont été brutalement, des nourrissons brutalement séparés des bras des parents, de maman, etc. Donc on a beau leur mettre des perfusions pour les nourrir, etc., le corps refuse et il se laisse mourir. C'est-à-dire que quand on dit que l'homme ne vit pas que de pain, c'est pour moi qui l'ai dit, mais de toute parole avec un grand P, c'est-à-dire de tout ce qui fait la relation, qui donne du sens dans la relation, mais c'est vrai physiquement, ça. Vous voyez ? Donc, si on apporte autant de soins à aider un enfant à intégrer les règles de vie, des repères, etc., pour que petit à petit, il puisse émerger à lui-même quand il passera la puberté, alors on a gagné. Et s'il faudrait qu'on mettait autant de soins à ça qu'on met du soin à leur santé, à leur sécurité physique. Et Dieu sait si on a mis la barre haute sur la sécurité physique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose, moi, alors quand je dis que je sors des gros mots, c'est élever un enfant. Élève, c'était beau ce mot, élève. Je ne sais pas ici comment on l'appelle les jeunes qui viennent ici, parce que dans certains établissements, maintenant, on les appelle les apprenants. Bon, ça peut se comprendre peut-être, je ne sais pas, mais j'aime bien ce mot « élève », parce qu'on les élève justement. Et on les élève pourquoi? Ben parce qu'on leur apprend à intégrer cette dimension non matérielle, non organique, qui fait le sel de la vie, qui fait qu'on est heureux d'être au monde. Voilà. À quoi ça sert, la vie ? Les jeunes, quand ils arrivent à 14-15 ans et qu'ils découvrent, parce que pour eux, tout est nouveau, c'est là qu'arrivent les questions brutales. Ils sont cash, en plus. Et comme ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas encore eu le temps de se mettre des filtres, ça arrive cash, quoi. À quoi ça sert ? Voilà. Et il faut qu'en face, les parents, les adultes qui sont en face, puissent leur dire, ben, en ce qui me concerne, voilà comment je vois les choses, moi. Pourquoi je me lève le matin ? Pourquoi c'est beau, la vie ? Pourquoi, finalement, je trouve ça super ? Moi, je peux le dire, c'est tout. Après, à toi de voir ce qui va, toi, te permettre d'être heureux. Mais voyez, bon, on a besoin de ça, on a besoin de sens. Et donc ça s'apprend petit à petit. Donc on élève, on éduque, on accompagne hors de l'enfance. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Bon, et on a donc affaire à des petits jeunes adultes. Et pendant tout un temps, pendant tout un temps, je veux dire jusqu'au milieu du XXe siècle, ben les enfants, quand ils avaient perdu, ils passaient la puberté, on les appelait plus des enfants, on les appelait des jeunes hommes, des jeunes femmes, jeunes filles. Et puis, on s'arrangeait pour les mettre en situation d'avoir à se confronter au monde des adultes, très vite. Alors, on s'échangeait entre parentèles, comme ça, on envoyait le jeune ou la jeune faire dame de maison chez la grande tante, ou lui partait commis dans une ferme à quelques encablures, et puis on ne se revoyait pas pendant un an ou deux ans. Et puis, quand on revenait, bah, on était une autre personne. Voilà, on était sorti de l'enfance. Et on avait acquis un peu d'expérience. Alors, je ne dis pas que c'était mieux avant et qu'il faut revenir à des choses comme ça. Je dis simplement que c'était comme ça qu'on traitait, qu'on avait trouvé comment traiter le passage, la sortie de l'enfance. Et quand je disais tout à l'heure, dans notre Occident, depuis le milieu du XXe siècle, on ne sait pas comment traiter la sortie de l'enfance. Alors, on fait des bidules, on bidouille. Alors, par exemple, pendant un temps, je ne sais pas si ça fonctionne encore ici, mais pendant un temps, l'Église proposait des communions, des choses comme ça, des professions de foi qui fonctionnaient un peu comme ça. Vous voyez, quand on a fait sa communion, alors ça veut dire... C'est-à-dire que j'ai une collègue comme ça, quelque temps, qui je la connaissais pas beaucoup, et puis je lui ai demandé des nouvelles de ses enfants, et puis elle me dit, ils grandissent. Tu sais que la dernière a fait sa communion ? Ah, je suis restée comme de rond de flanc, parce que je voyais pas trop, et en poussant un peu la conversation, je me suis rendu compte qu'elle voulait pas me parler de la foi, ni du passage de la foi, le credo chrétien, l'accompagnement, la retraite spirituelle qu'ils avaient fait avant, etc. Ça avait été super bien préparé en l'occurrence. Non, ça c'était pas. Elle voulait simplement me dire, c'est plus une enfant. Voilà. Et donc c'est typiquement une utilisation, je vais dire presque un braconnage, si vous voulez, de la fête de la profession de foi comme rite de passage, faute de mieux. Alors pendant un temps, les temps d'avant, il y a eu pour les hommes le passage au service militaire qui servait de repère aussi. Quand on avait fait son service, bon, il y avait avant et après. Donc avant, on n'est plus enfant, d'accord, mais enfin, on n'est pas quand même pris au sérieux comme adulte. Après, si, c'est bon, j'ai fait mon service, c'est bon, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui ? Alors, on utilise un peu le baccalauréat. Alors, le bac fonctionne comme rite de passage. Ça, c'est ça le problème. Le problème, c'est que vous savez, c'est autant de lieux qui n'étaient pas prévus pour ça. C'est pas prévu pour ça, c'est prévu pour autre chose. Donc, l'armée, c'était prévu pour préparer la défense de la patrie si toutefois elle était attaquée. Bon, voilà, c'était pas prévu comme rite de passage. La communion, la profession de foi, c'est prévu comme une affirmation de la foi en son nom, etc. C'est pas prévu comme rite de passage non plus. Et le bac, c'est un examen qui sanctionne un niveau de connaissance à la base. Hein, c'est ça, c'est ni plus ni moins que ça. C'est devenu le rite de passage, c'est-à-dire quand on n'a pas son bac, on a l'impression de ne pas être sorti. Enfin voilà, on n'est pas pris au sérieux, quoi. On n'est pas dans le monde adulte. Voilà. Bon, alors évidemment, si le bac devient rite de passage, il est préférable qu'il y ait 100% de réussite au bac, puisqu'il faut qu'il y ait 100% de gamins qui deviennent adultes. Donc, vous voyez, alors on patauge un peu. Et dans ce sens-là, moi, j'invite les parents à inventer eux-mêmes leur rite de passage avec leurs propres enfants. On pourra en reparler tout à l'heure, pour qu'il y a un moment, on prenne acte que, t'es plus un môme. T'es plus un môme. Ça, il n'y a pas photo. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va ? Ça suit ? Voilà. Alors, on est dans une confusion assez importante en ce moment, puisqu'on a décidé que l'adolescence... Alors, non seulement ça, mais maintenant, on projette ça sur les animaux. J'ai entendu des documentaires animaliers qui parlaient de l'adolescence des kangourous et tout ça. Bon. Là, on délire. Il faut faire très attention à ça. Alors, ce qu'on a à traiter aujourd'hui, c'est cette absence de rite de passage cette absence-là provoque des problèmes. Ça provoque des problèmes. Alors, évidemment, il faut s'en occuper des problèmes. Mais je vais prendre un exemple qui est assez dramatique. Hein. On est, depuis 30 ou 40 ans, on est complètement noyé sous les productions de gens qui vous expliquent c'est quoi l'adolescence, comment ça se passe l'adolescence, et c'est normal que les portes claquent et qu'on se dispute, etc. Moi, je ne pense pas. Je dis, franchement, je ne pense pas. Je pense qu'on peut traiter les choses sans violence. Mais bon. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prend pas nos jeunes au sérieux. Contrairement aux apparences, on ne les prend pas au sérieux. On se moque de nos jeunes, souvent. Par exemple, quand il s'agit de situations de maltraitance dans les cours d'école, dans les cours de collège en particulier, eh bien, on voit bien, enfin, les signes que la jeune vit pas bien, va rentrer, le visage est fermé, il y a une baisse de productivité à l'école, elle parle moins, tout d'un coup, il arrête le sport qu'il faisait avec passion juste avant, etc. Il y a deux, trois, comme ça, il y a un faisceau. Bon. Eh bien, une fois sur deux, j'espère que ça va changer maintenant, mais une fois sur deux, qu'est-ce qu'on dit? C'est normal, c'est l'âge bête, a fait sa crise. Voilà. À aucun moment, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Et donner la possibilité à cette personne, oui, de s'exprimer. Elle le fera, elle ne le fera pas. Mais on ne lâche pas l'affaire. Ce n'est pas normal, à 15 ans, d'être comme ça, fermé, de couper les ponts avec ses copains, ses copines, de tout d'un coup ne plus parler à table. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on cherche. Peut-être que les parents ne sont pas les mieux placés pour répondre, mais on va faire un pas de côté. On va aller voir quelqu'un d'autre, on va encourager notre jeune à aller voir c'est des gens qu'il aime bien, dans la famille. On ne lâche pas l'affaire. On ne se contente pas de dire c'est fait sa crise. Voilà. Admettons que la personne, cette jeune, vous dise pourquoi ça ne va pas. Par exemple, sortons du cas de figure du harcèlement scolaire, qui est quand même assez, bien que ce soit répandu, mais bon, limite. Mais souvent, par exemple, des jeunes ont le sentiment de ne pas être évalués de façon juste par leur prof, d'être saqués, par exemple. Ou d'avoir, dis-moi, de toute façon, il aime pas ma tête, et puis c'est tout, il a ses têtes, et je ne fais pas partie de ses têtes, de toute façon, j'ai beau bosser, j'ai toujours des sales notes. Ou bien des évaluations désagréables et tout. Bon, de deux choses l'une. Soit la personne vous dit quelque chose de vrai, ça existe, les profs ne sont pas infaillibles. Et dans ce cas-là, y a deux solutions qui peuvent aller ensemble. On peut essayer d'aller voir le prof, discuter avec, et en même temps expliquer aux jeunes que ça fait aussi partie de la vie, ça. Que ce n'est pas la dernière fois qu'il aura l'impression d'être traité de façon injuste. Ça fait aussi partie des choses de la vie. La question, c'est comment je vais le vivre ? Comment, moi, adulte, je vis des situations identiques dans mon boulot? J'aurais dû avoir une promotion, c'est évident. J'ai plus d'ancienneté, j'ai plus de bon. Mais l'autre, bon, parce qu'il fait partie de la famille du patron, bah, il est passé hop, sous mon nez, et puis c'est voilà. Et j'ai plus qu'à empiler pour 5 ans avant d'avoir espéré une promotion. C'est dégueulasse, ça, c'est pas juste. Comment je le vis, ça, moi, en tant qu'adulte? Ça donne une piste pour savoir que dire à un jeune qui, intérieurement, éprouve la même chose par rapport à un prof, par exemple, ou par rapport à un responsable de sport. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on discute, on essaie de comprendre, mais surtout, avec des post-pubères, on essaie d'imaginer ce qu'on éprouverait à sa place. Alors, je disais deux choses, une, soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est-à-dire qu'il se fait des idées. Le jeune peut se faire des idées aussi. On passe tous par des périodes un peu parano. Hein. On l'a tous vécu, ça. Il y a un moment, on a été malmené dans un boulot, par exemple. Ben, dans le boulot suivant, on est un peu comme un chat échaudé. Il n'y a rien à faire. Vous voyez, on n'invente rien. Les jeunes, ils sont au début de leur vie, donc ils éprouvent ça au premier degré. Mais c'est des choses qu'ils vont continuer à éprouver toute leur vie. Donc, supposons que le jeune, il vous dise « moi, je suis la tête de turc de mon prof » ou je sais pas quoi, ou « ils ne peuvent pas me saquer » et qu'il est tort, que ce n'est pas du tout vrai, qu'il se fait des idées. Bon, imaginons ce qu'il ressent. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un fil pour savoir comment le rejoindre. Qu'est-ce qu'il ressent ? Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce ressenti ? Et qu'est-ce que je peux lui suggérer de faire avec ce ressenti ? Indépendamment du fait que ce soit fondé ou pas. Vous voyez ? Il peut très bien se raconter des histoires. Et... Bon, tu fais quoi avec ça maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? On lui apprend à gérer ces situations qui commencent à se présenter à lui, mais qui n'ont pas fini de se présenter à lui au fil de sa vie. Donc, le fait, quand je dis l'adolescence n'est pas un problème, je mets l'accent sur le fait que les jeunes sont des personnes comme vous et moi. Ce sont des personnes. Simplement, elles sont au tout début de leur vie d'adulte. Tout est nouveau, tout est la première fois, et ils n'ont pas de cuir. Ils n'ont pas de... Nous, on s'est fait du cuir un peu quand même. Au bout d'un moment, on se fait du cuir. Vous voyez, il y a des cales, vous voyez, comme on travaille beaucoup. Au début, on a des ampoules, puis après, ça devient des cales, puis après, c'est bon, quoi. Mais intérieurement, au niveau du cœur, c'est la même chose. Enfin, du cœur, on n'est pas blindé, j'espère. Mais enfin, on est capable d'encaisser des choses qu'on ne pouvait pas encaisser à 14 ans. Mais maintenant, on peut mieux. Voilà. Donc, ils ont besoin, et c'est là le rôle du tuteur, ils ont besoin d'être simplement rassurés, accompagnés, une main sur l'épaule. T'inquiète pas, t'es pas tout seul. C'est normal tout ce qui se passe. Tu vas voir, tu vas pouvoir traverser ça, c'est pas un problème. Et donc, petit à petit, le jeune prend confiance en lui, petit à petit, il apprend à gérer les situations complexes. Jusqu'à maintenant, il ne voyait pas que c'était complexe. Un enfant, pour lui, le monde est simple. C'est pour ça qu'on a la nostalgie de l'enfance, parce que on dit mais c'est simple, c'est binaire, quoi, un enfant, c'est simple, la vie est simple. Mais après, on ne peut plus, parce qu'il y a l'autre. Voilà. Là, il y a une déchirure tout d'un coup. Oh, l'autre, je suis moi grâce à l'autre. C'est moi, je suis moi grâce à l'autre. C'est la femme qui fait l'homme et c'est l'homme qui fait la femme. Pour ne prendre que ce repère-là qui est quand même fondamental. Et donc, et là, du coup, voilà, et donc je rentre dans ma vie d'adulte comme ça. Voilà. Donc, des personnes, ce sont des personnes comme vous et moi. Alors, deux remarques à ce niveau-là. Les enfants sont des personnes, mais pas comme vous et moi. Les enfants sont des personnes en état d'enfance, ce que nous ne sommes plus. Alors, on peut le regretter, mais enfin, c'est comme ça. Quand Françoise Dolto, dans les années 60-70, a mis en évidence que dès la naissance, au moins, l'enfant est une personne, elle n'a jamais dit que l'enfant était un adulte et qu'il devait être traité comme un adulte. Jamais. Et ça a été la grande récupération et le grand contresens qui a succédé aux travaux de Françoise Dolto, où on a cru qu'on pouvait traiter un enfant de 4 ans, 5 ans comme un adulte. Alors, qu'est-ce que tu veux manger ? Mais qu'est-ce qu'il veut manger un enfant de 4 ans ? Mais du sucre, bien sûr. Que du sucre. Et puis des frites. Ben oui. Et puis comme les marchands, ils ont bien compris comment ça marche, un gamin, ben, ils font des jolis emballages, et toutes les couleurs, et puis ça pétille, et ça scintille, et puis ils disent, voilà. Comment voulez-vous qu'à 4 ans, ils aient quelques repères ? On dit, oui, non, mais un enfant, si on le laisse manger ce qu'il veut, il va choisir exactement ce qui lui convient. Oui, toute chose étant égale par ailleurs, ce qui n'est jamais le cas. Parce que justement, il y a des produits spécifiquement faits pour attirer les gamins. Donc ils sont perdus. Vous voyez, le radar là-haut, il est perturbé. Vous voyez, bon. Donc les enfants, non. Un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, vous allez traverser une rue. Enfin, aucun parent demande à l'enfant « Est-ce que tu veux me tenir la main ou pas me tenir la main pour traverser la rue ?» C'est évident que d'autorité, vous saisissez le gamin, il est hors de question qu'il se lance dans l'avenue sans être accompagné. Vous voyez, physiquement, vous savez protéger les mômes. Bon, donc, un enfant est une personne. Ça voulait dire quoi pour les travaux de Françoise Dolto ? Ça voudrait dire qu'il faut qu'on arrête de traiter un enfant comme on traitait à l'époque les animaux domestiques, c'est-à-dire avec souvent beaucoup de mépris, beaucoup de voir, les enfants étaient comme des objets qu'on posait là, qui avaient qu'à se taire, quoi. Un enfant, bon ben voilà, il a de quoi manger, un toit sur la tête, il va à l'école, il a rien à dire. Point. Alors on le met là, on le pose là, on le pose là, on le pose là. Bon, et puis on ne fait pas attention. Alors c'est évidemment, on arrivait de loin. Alors quand Françoise Dolto dit avec ses travaux, dit attendez, on a affaire à une personne. C'est-à-dire quoi? Il y a une interaction, il y a un centre de ressenti. L'enfant appelle quelque chose, l'adulte répond, etc. Ah, il faut regarder les films des nourrissons qu'elle a, les films au ralenti. Comme elle a travaillé en pédiatrie, c'est des bébés avec des perfusions sur le crâne et tout, qui étaient avec des choses compliquées puis douloureuses pour eux, qui pleuraient. Et leur Françoise Dolto arrivait tout doucement, puis elle leur parlait. Elle leur expliquait ce qui leur arrivait. Et vous voyez, alors, les films, c'est extraordinaire. Vous voyez les bébés, tout d'un coup, qui se calment, tout seuls, ils arrêtent de pleurer, qui se détendent. Voilà. Et Françoise Dolto leur expliquait ce qui leur arrivait, mais la maladie qu'ils avaient, qu'est-ce qu'on avait, pourquoi il avait une perfusion, et combien, qu'est-ce qu'il allait se passer après. Alors, évidemment, les imbéciles, c'est, mais enfin, elle est folle. Il y avait un bébé de quelques jours, quelques semaines, mais qu'est-ce qu'il comprend, ce qu'on lui raconte? Ah, mais rassurez-vous, le bébé comprend rien au niveau conceptuel. Mais il entend tout au point de vue affectif. Et il entend que tout ça a du sens, qu'on s'occupe de lui, qu'il est dans sa bulle, qu'il est en sécurité affective. Et ça suffit, la plupart du temps, pour le calmer. Alors là, on se dit, ah ouais, quand même, ah oui, c'est quand même pas un bout de bois, quoi. Donc voilà d'où on partait, voilà où on en est. Bon. Un enfant n'est pas un adulte. Un enfant a besoin d'être guidé, a besoin d'être institué. D'ailleurs, je regrette moi aussi qu'on ait laissé tomber, enfin, pour des raisons statutaires, syndicales, et tout ça, je comprends qu'on puisse passer d'instituteur à professeur des écoles, mais je suis désolée, ce n'est pas le même métier. Professeur, c'est un métier. Instituteur, institutrice, c'en est un autre. Un enfant a besoin d'être institué, installé dans une société donnée, pour qu'à partir de là, il puisse mener sa vie, quitte à faire la révolution quand il sera grand et changer la société. Ça lui appartient. Mais dans un premier temps, il est institué. On l'institue. Ici, c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on écrit, c'est comme ça qu'on se tient, c'est comme ça ce qu'on appelle la propreté, les mains, tout ça, on est propre, bon, on est poli, etc. Voilà. Bon, alors on apprend des règles de vie. C'est l'humus. Voilà. À partir de cet humus, on va pouvoir puiser tout ce qu'il faut pour faire l'adulte dès qu'on passe la puberté. À partir de la puberté, on éduque, on accompagne le jeune à la sortie de l'enfance jusqu'à ce qu'il s'envole. Vous voyez ce que je veux dire? Je termine pour l'instant pour donner 2-3 repères. Je dis, mais c'est bien gentil, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, ça veut dire quoi? Premier fil que je vous invite à suivre, dans la fratrie, si vous avez plusieurs enfants d'âge différent, n'hésitez pas à traiter, enfin, n'hésitez pas, je vous encourage à le faire, traiter différemment les post-pubères et les prépubères. Traitez-les différemment. Ils ont droit à un verre d'adulte quand on prend l'apéro. Dedans, mais pas forcément de l'alcool. Je ne vous encourage pas à les faire boire, bien sûr. Mais ce n'est plus le verre débile en plastique avec une vache dessus, ou je ne sais pas quoi. Non. On a un verre à pied. Voilà. De temps en temps, on se fait des virées avec papa tout seul pour soi, ou maman toute seule pour soi. Voilà. On lui demande son avis sur un certain nombre de choses, et on tient plus compte de son avis que de l'avis de la petite fille de 4 ans, ou du petit garçon de 6 ans. Voilà. Et puis, ça, c'est le premier fil. Donc, alors, vous allez me dire, oui, mais l'égalité. Alors, pitié, l'égalité. Je vous rappelle que l'égalité, c'est une affaire de dignité. On est égaux en dignité. Donc, tout enfant de 0, au moins 0 ans jusqu'à sa mort, adulte donc, est digne du respect parce qu'il a en lui toute la dimension humaine. Voilà. C'est la dignité et l'égalité, c'est l'égalité en dignité et par conséquent égalité en droit, devant la loi, plutôt exactement devant la loi. Bien. Une fois qu'on a dit ça, il faut gérer nos différences. Et les différences, en l'occurrence entre l'enfant et le post-pubère, c'est une différence de statut. Voilà, on n'a pas le même statut. Alors un enfant, 8 ans, ben non. 8 ans, ben non, tu peux pas faire telle activité avec papa ou avec maman. Ah ben pourquoi? Parce que lui, il a le droit. Ben oui, mais lui, il est grand, elle est grande. Et quand tu seras grand, quand tu seras grande, alors tu pourras. Alors en général, ça marche très bien, parce que les gamins, alors, ils rouspètent un peu, puis après, ils tirent la langue en disant vivement que je sois grand, que ça donne envie, quoi. Vous voyez? Mais, et alors pendant ce temps-là, vous gagnez sur tous les tableaux, parce que pendant ce temps-là, le post-pubère, lui, il est... Attention, hein. Je suis plus un môme. Évidemment qu'ils ont encore deux, trois plumes du doudou qui traînent un peu. Et parfois, il y a des moments de régression. Vous voyez, il y a des moments où ils ont envie, parce que c'est quand même plus simple avant enfant. Quoi. On a l'impression. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les rituels de passage étaient intéressants, parce qu'il y a l'avant et l'après, c'est-à-dire qu'on traite le manque de maturité, on le traite de façon différée. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce n'est pas parce qu'on a passé la puberté qu'on est mûr, bien entendu. Mais bon, il y en a, ils meurent à 90 ans, ils ne sont toujours pas mûrs. Mais bon, ce n'est pas la question. On le sait simplement en situant la personne de façon claire dans la société, on contribuait à l'aider à mûrir. Alors que comme on n'a plus ça, c'est quand même tentant de temps en temps. Évidemment, dans les villages africains ou ailleurs, quand on faisait des rites d'initiation, évidemment, les jeunes, ils ont passé leur rite d'initiation, ils font partie du monde des adultes. De temps en temps, ils lorgnaient dans la cour, ils auraient bien voulu continuer à jouer avec les petits. C'était trop marrant, quoi. Mais là, les adultes sont derrière en disant « Non, non, bah attends, c'est bon, quoi. T'es grand maintenant. » Alors, bon, il y a un deuil à faire, oui, il y a un deuil de l'enfance à faire, du statut de l'enfant. Pas de notre état d'enfance qu'on traîne jusqu'à sa mort, heureusement, à l'intérieur de nous, mais du statut d'enfant, oui, il y a un deuil à faire. Donc, nous, c'est à nous de le retraduire dans les familles. Donc, on traite différemment. Alors, autre chose, on peut fêter ça. Ah, mais bien. Quand on dit on fête, ah bon, on fête. Je ne sais pas, dans la famille, ça peut être 12 ans, ça peut être 13 ans, ça peut être, je ne sais pas, ou l'entrée en sixième, que sais-je. Enfin, vous prenez une date, et puis ça sera la même date pour tous les enfants. Alors, on fait une fête de chez la fête, quoi. On invite les papas, les mamans, voilà, les mamans, les parrains, les marraines, une vraie fête de famille avec les cadeaux. Les cadeaux. Mais on sait pourquoi on fait les cadeaux, quoi. Vous voyez ? Et là, maintenant, il y a un avant et un après. Alors maintenant, t'es grand, t'es grande, t'es un des nôtres. Alors évidemment, le gamin, bon, il n'est pas encore. Hein, parce qu'il faut qu'on traite. Le problème, c'est que toutes les informations vont dans l'autre sens. Oui. Alors lui, il se sent obligé de jouer l'ado. Moi, il m'est arrivé de m'occuper d'ados comme ça, un peu en difficulté d'ailleurs. J'ai dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Il me dit, mais parce que je suis un ado. Il dit, il joue l'ado, quoi. Parce qu'on lui a dit de faire ça, ben, il joue l'ado. Mais j'ai dit, mais tu n'es pas obligé d'être idiot, hein. Tu peux être normal aussi. Hein. Alors, bon, mais il y a une grosse pression sur eux de ce point de vue-là. On attend d'eux un certain nombre de choses, alors bon, ben, ils le font, quoi. Alors, bref, donc. Un rituel de passage peut-être à vivre en famille de façon très, très authentique et très solennelle, quelque part, avec discours des parents, etc. Enfin, un truc bien, une photo, machin, on met ça sur le buffet, bon, très bien. Et tous les enfants, les uns après les autres, ils auront droit à leur journée, à eux, leur journée de fête. Et après, alors après, il faut qu'il y ait du changement. On ne les traite plus de la même façon. La chambre, tu l'arranges si tu veux. Voilà. Mais alors, le reste de la maison, attention, hein, tes trucs qui traînent, c'est fini, hein. Bon, après, si tu veux vivre dans le souk chez toi, dans ta chambre, voilà. Tu ne veux pas te laver? J'attends que la copine en dise un petit mot. Parce que, voilà. Et puis, si vraiment c'est juste insupportable à table, on va te le dire quand même. Hein. Et ça aussi, ils attendent qu'on leur parle. Ils ont besoin de dire « j'existe ». Mais c'est normal, nous aussi. Imaginons que vous arriviez dans votre boulot le matin, personne ne vous dit bonjour, on ne vous voit pas. Mais la fois d'après, vous arrivez avec des plumes et des machins. Vous dites, mais oh, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je n'ai pas l'impression que je passe inaperçu. Bah, qu'est-ce qui se passe? On m'a coupé. Ah bah oui, il faut que j'arrête. Mais... Voilà. Donc, et les jeunes, donc, ils ont besoin. Si vous voyez, alors, dernière petite chose. Voyez votre jeune, il passe 2 heures dans la salle de bain ce jour-là, bon, c'est-à-dire une demi-heure de plus que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ressortir votre jeune, le crâne rasé, 2 boucles d'oreilles, les cheveux bleus, et puis le jean complètement déchiré dans tous les sens avec des baskets improbables. Bon, vous avez fugacement l'image du bébé, vous voyez, que vous aviez... bébé, mon petit, mon chéri, et tout ça. Puis tout à coup, vous voyez cette espèce d'étranger qui sort, là. Et évidemment, la première chose, me semble-t-il, à faire, c'est de surtout soyez vous-même, quoi. C'est-à-dire, ouais. Parce que si vous la jouez, bon, je vais faire celui ou celle qui n'a pas vu, vous voyez. vous pouvez être sûr que la fois d'après, mais il vous amène alors des carrément, mais les piercings jusque-là, des tatouages partout, des trucs, ça n'en finit pas. Alors que là, si, toi alors, ça tu me surprends. Je t'aurais à peine reconnu, dis donc. Et après, vous donnez votre avis, évidemment. Vous aimez, vous aimez pas, vous aimez pas trop, vous savez pas encore, vous lui dites. Vous dites, tiens, ça te va pas mal finalement. Ou bien, bon, faut que je m'habitue, tu vois. Ou bien, tiens, t'aurais peut-être pu en mettre deux là, ça aurait fait... Mais vous avez une réaction, vous avez quelque chose, il existe, quoi. Vous l'avez vu, il sait que vous l'avez vu et que vous donnez votre avis sérieusement, voilà. Et c'est pas, on n'est pas dans le positif, t'es formidable, t'es beau, t'es... Non, parce que des fois, c'est raté. Voilà, des fois, non, je trouve que ça te va pas trop, mais en même temps, moi, je suis vieille, je veux bien entendre que je suis vieille, quoi. Mais je sais pas, mais là, franchement, non, je trouve que ça te va pas trop. Voilà. Faut peut-être que je m'habitue, mais enfin, c'est bien, puis peu importe, après tout, faut que tu te plaises à toi. Voilà. C'est ça qui compte, faut que tu te plaises à toi. Mais vous pouvez être sûr que 15 jours après, c'est fini, elle a fini, la personne, le jeune ou la jeune, ils ont fini, ils se sont retrouvés, voilà, c'est bon. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils existent. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus on nie ces choses-là, plus on fait comme si on ne voyait pas, plus ils sont obligés, sans s'en rendre compte, c'est inconscient, d'en rajouter pour se faire remarquer, ce qui est normal. Ça veut dire qu'ils vont bien. Mais ça veut dire aussi que nous n'allons pas forcément bien quand on réagit comme si, je ne sais pas quoi, si allait donner un avis négatif, tout d'un coup, le monde allait s'écrouler. Voilà. Je vous avais promis de m'arrêter, je m'arrête. Pour que vous puissiez poser vos questions. J'ai évidemment pas tout dit ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Oui, je vous laisse la parole. Merci.
Merci beaucoup.
Et ça accélère, ça accélère en même temps la maturité, justement. Parce qu'à être traité comme un adulte, on a tendance à se comporter comme un adulte. Quand je dis ça... un point de vue positif sur le fait d'être adulte, hein, je le dis parce que c'est pas évident. Être adulte est une bonne chose, surtout si c'est être adulte heureux. Et on est toujours adulte à partir de l'enfant qu'on continue de porter en nous, on est d'accord, hein, j'oppose pas les choses. L'enfant, c'est comme je disais, c'est comme l'humus. On change de statut, mais l'humus, il demeure. C'est pour ça qu'on aime bien plonger là-dedans, évidemment. Mais on est adulte, il n'y a rien à faire. Et même quand on veut jouer l'enfant, continuer à faire comme si on était enfant, on le fait à la façon d'adulte. Hein, j'utilise souvent l'image d'un chanteur comme Alain Souchon, qui a beaucoup misé, je dirais, sur le « j'ai 10 ans, je suis un enfant, un grand ado », etc. Ouais, enfin, il gère sa carrière en adulte, tout à fait conscient de ce qu'il fait, quand même. Et heureusement, vous voyez. A contrario, vous avez un autre chanteur comme Renaud, pour ne pas le nommer, qui à plusieurs reprises a dit que s'il allait si mal et que s'il avait des addictions, etc., c'est parce qu'il refusait d'être adulte. Et qu'il a compris ça très tard, voilà, il voulait pas... Et il n'y a rien à faire, quand on va contre le cours du temps, on se fait violence. Et pour pouvoir tenir, on a besoin évidemment d'addictions, de tas de choses, quoi. Alors qu'il s'agit de devenir un adulte, heureux, bien dans sa vie, bien dans sa tête, voilà, de laisser danser l'enfant qu'on a été en soi, bon, on le laisse danser à l'intérieur et on en fait quelque chose en tant qu'adulte. Quoi, voyez, c'est ça l'idée. Hein. Alors, donc, un enfant, on pourrait 12 ans, 13 ans, dans le monde juif, c'est 13 ans, repère, voilà, il y a un avant et un après. Alors après, la maturité physiologique, elle suivra, ou elle aura précédé un petit peu, ou elle suivra un petit peu. En général, ça la déclenche d'ailleurs, se dit en passant. Si elle est un peu en retard, ça déclenche. Parce qu'on est dans le social. Autre chose ? Moi, je trouve très rassurant que les jeunes... rue un peu dans les brancards, justement, parce que c'est pas normal qu'on les mette à part de notre vie d'adulte sans arrêt. Il y a très peu d'endroits où les jeunes sont intégrés. Il y a les fanfares municipales où on trouve des gens de trois générations, ou des danses folkloriques parfois, des associations comme ça où on accepte que tout le monde soit mélangé. Mais il y en a très peu. On a décidé, je ne sais pas pourquoi, de parquer les gens par tranche d'âge, comme ça. Il y a les vieux dans leur club, il y a les, les actifs qui font je ne sais pas ce qu'ils peuvent, et puis alors les jeunes entre eux, bah, c'est entre eux, quoi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait société, en fait. Donc c'est normal que... Alors d'une part que les jeunes, bah, du coup, recréent des sociétés entre eux, puisqu'on les leur interdit la vie d'adulte. Vous voyez ? Ils n'ont pas le droit de travailler. Alors moi, je suis contre l'exploitation, rassurez-vous, je suis absolument pas... Je ne confonds pas le travail salarié et l'exploitation. On peut être au travail sans être exploité. Enfin, je ne sais pas, vous voyez ? On pourrait autoriser des jeunes à faire du boulot proportionnellement à leur constitution physique, évidemment. Mais ils ne demandent pas mieux, les jeunes, hein, de contribuer, de faire quelque chose, d'apporter leur montrer qu'ils savent faire. Ben, c'est interdit. Voilà. Ils ne peuvent pas monter sur un escabeau pour cueillir des cerises avant je ne sais pas quel âge, sinon... ça ne va pas, quoi. Alors les jeunes, ben, ils en ont marre. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils font comment ils appellent ça, les grimpes sur les toits, là. Ouais, ils font du street, je ne sais pas quoi, là. Et ils se mettent en danger. Alors qu'ils seraient encadrés par des adultes en train de cueillir des cerises, on leur apprendrait à monter sur une échelle, à la caler correctement et à ne pas tomber. Enfin, vous voyez, c'est... Alors on provoque souvent des problèmes et puis après on se dit, ah ben oui, ben donc il y a des problèmes, donc ça existe. Ben, non. Alors, ce qu'on ne peut pas faire à l'échelle sociétale, on peut le faire à l'échelle familiale. Il y a encore des mouvements comme les scouts, par exemple, qui développent ça, hein, ou le MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes. Voilà, des mouvements de jeunes qui sont vraiment branchés, un peu vraiment dans la même idée, où on accompagne des jeunes dans leur sortie d'enfance. On les laisse prendre des responsabilités proportionnelles à ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire. Et puis, petit à petit, les jeunes apprennent à se comporter avec les autres, apprendre à se connaître, apprendre à se fortifier à l'intérieur, à gagner en estime d'eux-mêmes, en confiance en eux. C'est en se confrontant au monde qu'on gagne en estime et en confiance en soi. C'est pas en restant dans sa bulle. Oui. Et tant peu qu'il y ait des adultes autour qui aident des jeunes à relire les échecs quand il y en a, à les encourager, à leur donner envie de grandir. Voilà, c'est ça qui fait que les jeunes ils ont envie de grandir. Regardez comment vous êtes et moi pareil, comment on a tout d'un coup flashé sur une figure de prof, un machin, qui tout d'un coup a déclenché, on dit ah, moi je me verrais bien, tout d'un coup, ah ben voilà, ça y est, on est en route, quoi. Oui. Et ça fonctionne encore très bien, ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas à désespérer du tout. Autre question, remarque et autres ? Oui, allez-y. Ah oui, ben oui. Alors, préadolescent, oui. Alors ça, c'est aussi un concept. Ben forcément, comme on a inventé l'adolescent, on va inventer le préadolescent, puis le postadolescent. Ce qui est sûr, c'est que l'enfant, lui, il va s'identifier au plus grand. Il y a papa-maman, d'abord les deux héros, et ensuite les grands frères, les grandes sœurs. Ou bien ce qu'il voit à la télé, quoi, les personnages de série. Donc, il va s'identifier comme un enfant. Il va être comme. Voilà. Évidemment, ce qui va permettre à l'enfant de faire la part des choses, c'est les parents qui disent bah non, non. Pourquoi ? T'es trop jeune. Oui, mais machin, oui, mais non. Oui, mais quand je vais dans la famille machin, ils ont le droit. Ah, mais oui, mais c'est la famille machin. Et toi, t'es dans la famille truc. Et c'est pas pareil. Oh, mais c'est pas juste. Ben non, peut-être. Mais c'est comme ça. Alors évidemment, vous avez des raisons, vous allez pouvoir lui dire, parce que nous, on préfère. Il faut que l'enfant entende que ce n'est pas arbitraire. Tu dis, nous, on préfère, on est plus rassurés. Ou bien, tu vois, moi, j'avais fait avant, quand j'avais ton âge, et puis ça ne s'est pas bien passé, donc je ne voudrais pas qu'il t'arrive les mêmes problèmes. Voilà, et donc, alors l'enfant va être frustré, évidemment, et c'est très bien. Le problème, ce n'est pas de frustrer l'enfant, le problème, c'est qu'il faut qu'il apprenne à vivre correctement ses frustrations. Et que les premières frustrations n'arrivent pas quand il a 14 ans. Parce que là, c'est dramatique. Plus on apprend un enfant à traverser des frustrations tôt, plus il est armé pour entrer dans la vie d'adulte. Plus on l'a protégé des frustrations, plus il est démuni. La première des frustrations qu'un jeune rencontre, c'est quand l'amour de sa vie, le premier, lui colle un râteau. Et ça, alors là, ça ment pas. Et c'est pas, si c'est moi qui je veux. Ben non, l'autre, il veut pas, il veut pas. Hein. Elle veut pas, elle veut pas. Alors, et là, c'est, et si le jeune, il a jamais eu auparavant, il a toujours eu tout ce qu'il a voulu, tout le temps, tout de suite, etc., il est démuni, de chez démuni, il n'a pas de ressources en lui pour faire face à cette situation qui est compliquée et qui est douloureuse, évidemment, pour tout le monde. Donc, c'est pour ça, frustrer un enfant, et c'est comme ça. Et l'enfant, quand il sent que les parents, ils le font avec amour et fermeté, mais tranquille, hein, il s'agit pas de... C'est comme ça, c'est pas besoin de crier, c'est comme ça. Parce qu'on préfère, parce que c'est notre choix. Eh bien, il va être frustré dans un premier temps, et tout de suite après, pratiquement de façon concomitante, il va se sentir rassuré et fier de ses parents. Vous voyez ? Alors, le difficile, c'est pour les parents, évidemment. C'est jamais marrant qu'un enfant dit « Ouais, t'es pas gentil et tout. » Bon, ou bien on compare toujours avec ceux qui ont ce que je voudrais avoir et que j'ai pas. On compare pas avec ceux qui n'ont pas ce que j'ai déjà, hein, jamais. Bon, c'est de bonne guerre. Donc, on dit « Bah oui, non. » C'est comme quand on va négocier notre salaire dans l'entreprise, on va comparer avec celui qui gagne plus. Hein. On ne va pas demander à gagner moins parce que l'autre, il gagne moins. Hein. Bah, c'est de bonne guerre. Oui. Donc, alors l'enfant, bah, il va. Donc à qui on veut qu'il s'identifie, l'enfant ? Voilà. On dit, bah, tu vois, lui, bah, oui, mais nous, ça ne nous plaît pas. Tu vois ? Parce que tu as vu, à l'école, il a un mauvais résultat et puis... Et puis il parle mal, et puis personne ne l'aime finalement, ce gars-là. Enfin non, moi ça ne nous plaît pas, donc tu ne vas pas là. Voilà. Et puis c'est tout. Par contre, on a une solution, tu vas aller là plutôt, tiens, tu ne vas pas là, mais on te propose ça, etc. Donc ça dépend de l'âge de l'enfant. Hein, mais... Alors là, la frustration, c'est important. Voilà. C'est important de t'aider à traverser les frustrations, petites et grandes. C'est bientôt Noël, là, c'est pareil, Noël. Ben, Noël, évidemment qu'on demande aux enfants ce qu'ils veulent, mais on leur demande de choisir dans un catalogue pas ouvert à l'infini. Et on lui dit, tu choisis de telle page à telle page. Parce qu'après, c'est trop cher. Ou avant, ça ne nous plaît pas. Voilà, c'est de telle à telle. Voilà. T'as le choix, mais un choix cadré. Et c'est tout. Vous voyez, et c'est petit à petit, l'enfant, ben, voilà, il s'y retrouve, hein. S'y retrouve. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais hein, voilà. Alors là, vous avez tout à fait aussi raison, c'est qu'on ne va pas traiter un enfant de 10 ans comme on traite un enfant de 2, évidemment. Hein. L'enfant, il a sa pertinence déjà, il a sa logique, etc. On peut bavarder avec lui. Mais n'oublions pas qu'il continue à 10 ans d'être dans l'identification des adultes dans le besoin de sécurité. Même s'il donne l'impression d'être très autonome. En fait, il ne l'est pas. Il ne peut pas l'être. Parce qu'il ne peut pas relativiser par rapport à de l'autre. Ça, c'est après la puberté qu'il va pouvoir tout d'un coup se rendre compte que l'autre, c'est de l'autre. Voilà. Et donc, mais c'est tout, quoi. Après, c'est pas au cordeau comme ça, on est d'accord. Hein. C'est nuancé, le passage. Mais bon, quitte à avoir un repère, autant qu'il soit physiologique pour le coup. Oui, monsieur ?
Un micro qui marche.
Alors, les réseaux sociaux.
Oui, alors, et d'Internet.
Extension du domaine de la lutte.
Parce que, on est, en fait, les parents, on est en concurrence avec les réseaux sociaux et avec Internet.
Oui, les parents ont toujours été en concurrence avec d'autres. La première concurrence des parents, c'était l'école obligatoire. Hein. Je rappelle que si, sous Jules Ferry, on avait demandé aux gens de voter pour ou contre l'école obligatoire, ils auraient eu une majorité contre. Les gens n'étaient pas du tout contents qu'une partie de l'éducation leur échappe et soit aux mains de l'État. Donc, les concurrents, il y en a toujours eu. En revanche, on a évidemment un nombre exponentiel de concurrents via les réseaux. Ça, on est d'accord. Le système les réseaux sociaux, c'est une sorte de caisse de résonance multipliée par 3000 de ce qui se vit habituellement dans les cours de récré, quoi. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant. Moi, je fais partie des gens qui voudraient interdire l'accès aux réseaux sociaux avant 18 ans. Parce qu'on ne sait pas gérer ça. C'est, voilà, on a tous vécu ça dans les cours de récré. À un moment, on est pris en, voilà, tout d'un coup, on est en mauvaise posture, voilà, on se prend une gamelle, la pudeur, bon, à l'intérieur. Bon, c'était pas drôle sur le coup, ça faisait rigoler deux, trois copains, deux, trois copines, on en parlait pendant une semaine, puis après, terminé. Aujourd'hui, il y a la photo, ça tourne en boucle, ça n'en finit pas, et quand vous avez passé 30 ans, on vous ressort la photo de quand vous étiez à 6 ans dans la cour de l'école et que vous êtes pris une gamelle et qu'on a vu votre culotte, quoi. Donc, c'est... Et ça, mais c'est d'une violence sans nom. Et je ne comprends toujours pas pourquoi on a laissé faire ça. Pourquoi on laisse s'installer ça. Je ne comprends toujours pas. J'avoue que je ne comprends pas. Mais je suis vieille, j'assume. C'est une violence sans nom. Alors évidemment que ça s'accompagne de toute une génération ou deux, ou déjà on a deux ou trois générations, où on oublie de rappeler les règles minimum de la vie en société, en particulier le fait qu'on ne se moque pas des gens qui sont différents, couleur de peau, un handicap. Voilà, j'ai encore il n'y a pas longtemps entendu une gamine là, qui était handicapée, qui perdait la vue, qui a une maladie dégénérative et qui perd la vue progressivement, elle est en troisième. Bon, bah, ses camarades lui font des croche-pieds, lui mettent des pots de banane dans son cartable, enfin... Mais attendez... Mais on n'a jamais expliqué à ces gens que c'était pas bien, qu'on se fait pas, on fait pas des choses comme ça, ça fait mal, que ça blesse des personnes qui voudraient pas qu'on soit traité de cette manière-là. Enfin, je sais pas. Moi, je dis, il y a quand même des règles. Il y a du bien, il y a du mal, il n'y a rien à faire. C'est pas bien. Pourquoi ? Ça fait mal aux gens. Et c'est pas bien de faire mal aux gens. Voilà. Pourquoi ? Ben parce que ça crée de la douleur. Ensuite, ça crée de la frustration. Là. Les gens sont... Voilà, la relation, elle est pas amicale. Puis on est malheureux. On est tous malheureux, au bout du compte. Les enfants, ils sont capables d'entendre ça. Ils sont tout à fait capables de comprendre. Mais si on laisse faire... ils arrachent les pattes aux papillons. Il faut qu'il y ait un adulte qui leur dise que c'est pas bien. C'est pas parce qu'ils le font spontanément qu'il faut laisser faire. On dit, bah oui, non, mais d'accord, t'es en train d'éprouver que t'es grand et que t'es fort parce que t'as 3 ans et demi, 4 ans, et que par rapport à un papillon, bah évidemment, s'il y en a un qui arrache les pattes à l'autre, on sait qui c'est. Mais il faut que t'apprennes à pas abîmer plus petit que toi. Tu vois? C'est justement pour ça que t'es fort, pour protéger ce qui est petit et ce qui est fragile. C'est pour ça que t'es fort, pour ça que t'es forte. Le gamin 4 ans, ça marche, hein? Comprend ça. Mais si personne lui dit, bah, écoute, c'est jouissif, évidemment. Oui. Et moi, je suis pour qu'à l'école, on leur apprenne, aux enfants, on dit non, il y a des choses qui ne se font pas. On ne se moque pas de quelqu'un qui est différent, on ne fait pas comme ça. Bon. Et puis, si tu ne comprends pas, et ben, on te punit, tu vas rester dans ton coin, puis tu vas réfléchir à ce qu'on t'a dit. Voilà. Vous voyez, c'est... Alors, si on ne peut pas le faire à l'école, mais je pense qu'on le fait ici, mais faites au moins à la maison. Et on le dit de façon pas du tout agressive et méchante, mais très calme que possible, aussi sereinement que possible. Je ne suis pas d'accord. Voilà. On ne parle pas comme ça. On ne traite pas son petit frère ou sa petite sœur comme ça. Ça se fait pas. Et donc, et pourquoi ? Et ben parce que, là, j'explique. Et puis si tu ne comprends pas, et ben tu vas dans ta chambre, tu vas réfléchir à ce que je t'ai dit. Voilà. Ouais, pleurer, maman méchante. Voilà. Et puis une heure après, maman, tu m'aimes, je t'aime. Voilà. Enfant normal. Mais alors, les réseaux sociaux, oui, c'est une catastrophe. Moi, alors, les parents, je ne sais pas comment vous faites pour gérer ça, mais c'est vrai qu'au moins réguler le temps d'écran, déjà. Voilà. Mettre les téléphones dans les corbeilles avant de monter se coucher, en bas. Bon. Couper la box. Enfin, bon, il y a des trucs à faire, mais pour expliquer à chaque fois pourquoi. Et puis surtout, inviter les gamins et les accompagner sur d'autres sujets. Enfin, faire du sport, aller visiter des trucs, aller se balader, manger dehors quand il fait beau, aller regarder un film en famille. Je ne sais pas, il y a des tas de choses à faire qui remplacent. Parce qu'on sait bien aussi que le temps qui passe sur les réseaux sociaux, c'est souvent parce que c'est du temps où ils sont tout seuls et ils sont désœuvrés. Voilà. Mais bon, cela étant, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de réponse ferme là-dessus. Hein, parce que c'est en même temps, c'est encore nouveau pour nous, pour tout le monde. Mais enfin, les grands pontes des réseaux sociaux, là, du côté de la Californie, ils sont tous d'accord pour dire que, concernant leurs propres enfants, ils sont plutôt dans l'interdiction qu'autre chose. Alors même que ce sont les inventeurs de l'outil.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonsoir. Comment accompagner les enfants qui ont du mal à traverser la puberté, à savoir l'apparition de l'acné, la pilosité chez les filles, donc ils le vivent mal et on a du mal à leur dire que c'est juste une période, après ça ira mieux.
Oui, bah c'est déjà pas mal de leur dire ça. Moi, j'encourage à ce qu'ils fassent, à les inciter à faire quelque chose de physique, c'est-à-dire une activité physique. Ça peut être la piscine, ça peut être la gym, ça peut être un sport co, ça peut être quelque chose où physiquement ils se dépensent, ils bougent, ils apprennent à connaître leur corps. Donc on n'est pas dans un rapport intellectuel aux choses, mais plus dans le ressenti du corps. Et le bonheur qu'on peut avoir quand on a 15 ans de se défouler avec un ballon, avec n'importe quoi, avec des raquettes, ils ont besoin de bouger, il ne faut pas oublier ça. Mais des jeunes de 15 ans, mais c'est des bombes d'énergie, quoi. C'est de l'énergie. 15, 16, 17 ans, mais ils ont de l'énergie à revendre. Mais comment ils peuvent rester assis aussi longtemps ? Moi, je les admire des fois, quoi. Vous voyez ? Ils devraient tous être bûcherons à cet âge-là, quoi. Vous voyez ? Je me souviens de, je ne sais plus qui parlait de l'étude qu'il a eue chez les frères je crois que c'était les frères des écoles chrétiennes il y a quelques années. Il disait, alors c'était dans les années 40-50, hein, mais il disait on avait la moitié du temps, on faisait du sport. Tous les après-midi, on faisait du sport. On courait, on faisait de l'athlétisme, on faisait du foot, on faisait n'importe quoi. Et le niveau intellectuel était très bon. Hein. Il mettait le paquet le matin pour toutes les activités cérébrales, puis l'après-midi, il se défoulait. Mais je me dis ça, c'est peut-être assez équilibré quand même. Donc là, le problème, c'est de petit à petit que ces jeunes accueillent leur corps en train de se transformer, mais là encore, c'est pas fini. Hein. Il va se transformer jusqu'à la mort. Hein. On stagne pas. Hein. Contrairement aux apparences, on ne stagne pas. Bon, mais petit à petit, apprendre à aimer ce corps qui arrive. Et comme ça va quand même assez vite, au bout de 2 ans, c'est bon, quoi. Ça y est. Il y a une période un peu compliquée. C'est en général la cinquième, l'équivalent de la cinquième. Ça, c'est pour tous les garçons, c'est un petit peu plus tard, quand la voix mue et tout, c'est bon. Mais en gros, ça dure une année, quoi. Allez, en gros, une année critique. Alors, je veux bien entendre parler de crise d'adolescence, mais pas plus d'une année, et encore. Mais c'est tout. Après, ça y est, c'est réglé. Oui. Et après, il faut apprendre. Alors, ce qui est important, c'est d'apprendre à aimer son corps, comme il est. Et puis, d'en prendre soin. Ah, ça, oui, on en prend soin. Mange pas n'importe quoi, etc. Bon, alors ils savent ça. Mais le savoir, c'est une chose. L'expérimenter, c'est une chose. C'est une autre chose. Il faut qu'ils aient du plaisir à expérimenter leur corps, leur force, leur énergie, le sang qui circule. Voilà. Vous voyez ? Et ça fait partie de l'amour de la vie. Hein. Alors, cela étant, les jeunes ne sont pas dupes maintenant. Je vois, il y en a beaucoup qui réagissent par rapport aux photos, les photos retouchées, par tout ça qui circule sur les... Parce que là aussi, ils s'identifient forcément à leur vedette et leur star et compagnie, mais ils ne sont pas dupes. La plupart savent très bien que les photos ont été retouchées, que ce n'est pas possible, on ne peut pas être fabriqué comme ça. Enfin bon. Donc c'est déjà pas mal. Et ils ne sont pas idiots quand même, heureusement.
Autre question.
C'est bon ? Eh ben, ça vous laisse sans voix.
C'est le moment de poser votre question. Après, il sera trop tard.
Je vais apporter un bouquin que j'ai écrit il y a quelques temps qui résume et qui dit beaucoup plus d'autres choses de ce que je vous ai dit aujourd'hui, qui s'appelle « Être parent, une aventure humaine et spirituelle », avec une dimension que j'ai rajoutée à la fin de chaque chapitre, pour ceux que ça intéresse, de l'impact éventuellement de la foi chrétienne dans le processus d'éducation. Mais c'est un appendice, je dirais, parce que pour le reste, ça concerne l'anthropologie de base. Peu importe qu'on soit bouddhiste, chrétien, athée, on est fabriqué de la même façon à la base. Structurellement, on est pareil, quoi.
Il va falloir se battre, parce qu'il y a 7 livres. Voilà.
Il y en a 7, non, mais j'en ai apporté que 7 exemplaires, oui, mais voilà. Oui.
Bien sûr.
comment l'enfant il peut se construire si ses deux parents sont séparés et qui ne fonctionnent pas du tout pareil.
Ah, eh ben, ça veut dire que l'enfant très tôt va être, va avoir à intégrer dans son désir, son besoin de sécurité, que c'est inconfortable, mais c'est pas grave. C'est inconfortable, mais c'est pas grave. Donc vraiment, on va pas faire comme si on est d'accord quand on n'est pas d'accord. Tu vois, papa, il pense comme ça, maman, elle pense le contraire. Donc quand t'es avec maman, ben, ça va se passer comme ça. Quand t'es avec papa, ben, ça va se passer comme ça. Mais c'est pas grave. Tu restes le petit garçon, la petite fille qu'on aime, tous les deux, et tu vas grandir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, moi, je trouve ça important de leur dire les choses. Mais pour eux, c'est ardu quand même. Hein. C'est parce qu'ils ne sont pas câblés pour intégrer ça. Donc disons qu'ils vont être obligés de l'intégrer un peu plus vite que les autres. Qu'il peut y avoir différence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux enseignants. Parfois, ils ne disent pas la même chose, parfois le contraire des parents. Alors comment on fait ? C'est très troublant pour les enfants. Donc il faut qu'ils entendent qu'il y a du sens. Et que ce soit papa ou maman, on tient debout. On sait qu'on n'est pas d'accord, mais on tient debout. C'est pas grave. Enfin, c'est un peu contrariant, on préfère être d'accord, mais c'est pas grave. On peut ne pas être d'accord, et la vie continue. C'est pas dramatique. C'est ça qu'il faut qu'ils entendent. Ça les rassure tout de suite. Oui. C'est bon ? Ah, une question, monsieur, là-bas.
Alors, est-ce qu'un adolescent, on le sanctionne privé de sortie, privé de téléphone, comme on disait tout à l'heure, ou bien simplement on discute avec lui et,
Les deux.
Mais est-ce qu'on le sanctionne ?
Ah bah évidemment. Il y a un contrat après avec des jeunes. Là, c'est intéressant ce que vous dites, votre question aussi, parce que vous comprenez, dans un établissement scolaire, c'est un peu comme dans, enfin. Mutanisme, mutandisme, mais comme dans le monde du travail, il y a un contrat. Il y a des gens qui sont là pour vous enseigner des choses et vous, vous êtes là pour apprendre et préparer des examens. Voilà. Bon, on va mettre toutes les conditions en route pour que ça fonctionne bien, que vous ayez vos examens. Alors, nous, on vous engage à vous enseigner des choses, vous vous engagez à les apprendre. Enfin, en gros, c'est ça. Et comme dans n'importe quelle entreprise, quand on n'est pas là, quand on ne fait pas le boulot, ben, il y a sanction. Il y a sanction. Voilà. Mais dans le cadre du contrat, ben, tu t'étais engagé à faire ton travail pour telle date. La date est passée depuis longtemps, tu n'as toujours pas fait ton travail. Ah oui, mais oui, ah ben, écoute, voilà. Alors évidemment, en fonction des raisons pour lesquelles tu n'as pas fait ton travail, on va moduler la sanction, bien entendu, comme dans n'importe quel autre boulot. Mais on va le prendre au sérieux aussi, ça. Ouais. En revanche, pour être honnête, il faudrait qu'au niveau enseignant, ce soit la même chose. C'est-à-dire qu'on s'est engagé à corriger les copies pour telle date. Quand on arrive telle date, elles ne sont pas corrigées. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça donne pas envie aux jeunes de respecter leur part de contrat. Ça devrait être vraiment ici, on se prend mutuellement au sérieux. Alors si on continue de les prendre pour des mômes, évidemment, et de se faire comme si on fait avec des mômes, c'est pas grave. Etc. Eux, ils sont très sensibles à cette question d'injustice, quoi. Le fait du prince, quoi. C'est le fait du prince. Alors lui, il peut se permettre hein, de laisser 6 semaines les copies. Alors on ne sait pas où on en est, on ne sait pas si on a la note, et puis nous, dès qu'on a une journée de retard, paf ! Eh bien ça, c'est insupportable, et vous seriez exactement dans la même situation qu'eux si vous deviez vivre la même situation. Vous seriez dans le même état d'esprit, je veux dire. Vous voyez ? C'est pas normal. Alors bon, alors évidemment, quand il rentre à la maison et qu'il vous dit ça, alors, oui, ben, t'as raison, mais c'est vrai, c'est pas normal. C'est vrai. Il faudrait que vous le disiez à votre prof. Peut-être qu'il ne se rend pas compte. Voilà. Bon, et ben ça, et parfois, ça suffit pour faire retomber le soufflet en disant « je ne suis pas tout seul à penser ça, quand même. » Oui. Mais on ne va pas dire à un jeune « Écoute, c'est le prof, il a raison, le prof a toujours raison, etc. » Parce que là vous le perdez. Hein. Et pour de bonnes raisons. Oui.
Dernière question.
C'est bon ?
Ou pas ?
Ou pas. Ah, il y a une petite papate là-bas.
Ah oui.
J'avais une question par rapport à la foi, parce que justement, on accompagne nos enfants, Et à un moment, on a le droit de se dire, bah oui, ils veulent vivre leur vie d'adulte, ils veulent affirmer que nous, on leur enseigne une foi chrétienne, etc., qu'ils n'ont pas envie d'y croire, qu'ils n'ont pas envie d'aller à la messe. Ouais. À quel point on les accompagne, on les oblige, on les laisse libres de leur choix. Enfin, c'est compliqué de se positionner. En fait.
Ah ben à partir de 13-14 ans, 14 ans, vous ne pouvez pas les obliger. Vous pouvez pas. C'est-à-dire que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. C'est contre-productif. Là, vous rentrez vraiment dans la dimension où vous n'avez plus qu'à témoigner, vous, de votre foi et de ce que ça vous apporte dans votre vie d'adulte. Mais de en témoigner, pas forcément avec des mots, hein, mais en le montrant la joie communicative qui vous porte en gambadant vers la messe du dimanche, des choses comme ça. Et qui, voilà. Et puis, à table, quand on aborde un certain nombre de sujets, votre rapport à la foi peut évidemment avoir une incidence sur votre point de vue. Donc moi, en tant que disciple du Christ ou en tant que chrétienne, tu vois, ben, je vois plutôt les choses comme ça, etc. Puis, vous savez, vous semez à ce moment-là. Vous êtes vraiment dans le témoignage. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous avez fait votre boulot au niveau enfant, machin, vous l'avez mis au catéchisme, tout ça, il a été à la messe et tout, bon, très bien, il s'est imprégné. Et ça, c'est ce que fait un enfant, il s'imprègne des choses, il s'imprègne. Bon. Après, ça fait partie de son humus. Après, c'est à vous de continuer à témoigner de votre foi. Et vous allez avoir un petit jeune qui, s'il va bien... Il va commencer par... Il n'y a rien à faire. Après la puberté, c'est l'inventaire. On fait l'inventaire de ce qu'on a reçu. Donc on commence par pousser tout loin, puis après on récupère deux, trois bricoles, machin, puis on tricote ça à notre manière, ce que vous avez fait avec vos parents, la même chose. Voyez. Et puis comme par hasard, à la naissance du premier, quand vous serez grand-mère, pas tout de suite, hein, mais du premier petit enfant, tout d'un coup, vous allez voir, vous avez la surprise d'entendre, bah, finalement, papa, maman, bah, finalement, vous aviez raison, hein, sur ce coup-là. Ah, bon, voilà. Et parce que le fait d'être parent, fait tout d'un coup, là, l'expérience vous rapproche d'expérience des parents, et on comprend les exigences qu'ils ont pu avoir, qu'on n'a pas compris sur le coup. Mais on les avait entendues. N'oubliez pas que ce que vous dites et ce que vous donnez à voir, c'est intégré, c'est imprimé dans le cerveau quelque part. C'est jamais perdu. En revanche, ça ne répond pas toujours de la façon dont on l'avait attendu. Donc, patience, et puis restez vous-même, quoi. Tranquille.
Bien, je pense que ce sera le mot de la fin.
Oui, ben merci pour votre attention. Et bon courage.
Merci à vous. Merci d'avoir su nous exposer en un si petit laps de temps un si grand nombre de choses qui font du bien à entendre. Et je pense qu'on repart avec plein d'envie de peut-être de mieux faire ou de faire tout court. Voilà, ce qui est déjà pas mal.
Merci pour votre accueil.
Et donc les livres, je pense qu'on peut, si vous êtes intéressé, bah vous pouvez vous rapprocher. Et puis, et oui, très important, je vous donne rendez-vous personnellement avec Monsieur Le Diagon le jeudi 14 mars pour une conférence ici même à 20h qui abordera, comment le dire de manière, la parentalité bienveillante ou appelée aussi l'éducation positive. On va essayer de mettre un petit peu. Voilà, d'eau dans son vin, et on va essayer de trouver, en fait, si vous voulez, les justes limites entre la parentalité bienveillante, pardon, et les limites éducatives. Voilà, essayer de parler un petit peu de ça et de faire un petit peu le point sur ces sujets qui sont parfois un peu compliqués pour s'y retrouver. Donc je vous donne rendez-vous parce que ça risque d'être très très intéressant également. Voilà, bonne soirée à tous.